Vous écoutez RTL.
Deuxième invité d'RTL Soir, il sauve des vies, le doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes, le professeur Gérard Frenander. Bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Laurent Salomon, gynécologue, obstétricien à l'hôpital Necker. Bonsoir à vous deux, donc bonsoir.
Bonsoir.
Si vous êtes avec nous, c'est à l'occasion tout à l'heure du dîner de gala Sauver la vie, organisé au pavillon Le Doyen, à côté des Champs-Élysées. Objectif donc, recueillir des fonds pour faire avancer la recherche médicale. On en parle dans un instant. Une question d'actualité, vous avez entendu le comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination. Il préconise de rendre obligatoire tous les vaccins. C'est une bonne idée, professeur Friedlander ?
On a besoin d'une mesure forte. On a besoin d'une mesure forte parce que cette baisse d'adhésion à la vaccination devient un sujet. Quand on ne se vaccine pas, c'est dangereux pour soi-même, c'est dangereux pour l'entourage.
Mais il y a une grande défiance. Hein.
Il y a une grande défiance qui n'est pas fondée. Et aucune étude sérieuse ne peut montrer aujourd'hui un lien entre la vaccination et les maladies dont, auxquelles on l'attribue. En revanche, on sait très bien ce qui se passe quand on n'est pas vacciné.
Si vous êtes là ce soir, c'est pour ce dîner de gala. 300 invités pourront dialoguer, échanger avec les plus grands chercheurs pour la bonne cause, la Fondation Paris-Descartes. Il faut expliquer à nos auditeurs d'abord que même si l'hôpital, la fac de médecine, le laboratoire INSERM sont des instituts publics, votre travail, il n'est pas gratuit. Il faut vous aider, professeur Salomon.
Absolument. La médecine a en fait trois grandes branches, que sont le soin, c'est ce qui est le plus évident pour la plupart de vos auditeurs.
Ouais.
La recherche, beaucoup du grand public ont aussi une bonne idée de ce qu'est la recherche, mais il y a également tout un versant d'enseignement, et c'est particulièrement ce versant que soutient la Fondation Paris-Descartes. Soutenir l'enseignement, c'est essentiel, et c'est aussi important que de soutenir le soin ou la recherche.
Les thématiques de cette année, le cancer, les maladies neurologiques, cardiologiques, ce sont des domaines où la médecine est en pleine révolution. On avance à grands pas ?
On avance à grands pas. De quoi meurt-on en France et dans les pays occidentaux ? On meurt de cancer, on meurt de maladies cardiovasculaires, on meurt de maladies neurodégénératives. Mm-hmm. Dans ces trois domaines, on a encore des progrès gigantesques à faire. Jusqu'à très récemment, deux cancers terribles, le mélanome et le cancer du poumon, n'avaient pas de traitement vraiment efficace. Aujourd'hui, il y a des nouveaux traitements. Ils arrivent, il faut les essayer, il faut les améliorer. Il y a des espoirs aujourd'hui, même dans ces champs-là. Et bien sûr, on a besoin d'argent pour le soin, mais on dit bah, le soin, finalement, c'est l'hôpital, c'est pas la faculté de médecine. C'est pas vrai, parce que ce sont les mêmes médecins qui sont le matin à l'hôpital, en blouse, et qui s'occupent de vous, et qui sont l'après-midi à enseigner. Enseigner, ça veut dire apprendre à ceux qui sont les étudiants aujourd'hui et qui demain vous soigneront.
Donc ça, c'est indispensable, et pour ça, il faut de l'argent. C'est l'objet de ce gala de ce soir, dîner de gala. Concrètement, l'un et l'autre, vous travaillez sur quoi ? Professeur Salomon, je disais que vous travaillez sur les 9 mois d'une grossesse, parce qu'on peut soigner in utero ?
Alors absolument, les progrès de la médecine nous permettent aujourd'hui de faire des diagnostics absolument incroyables dès les premières semaines ou les premiers mois de grossesse. Et après ces diagnostics, nous avons également développé toute une panoplie maintenant de traitements qui permettent d'aider le fœtus à arriver jusqu'à la naissance dans de bonnes conditions. Et on sait que ces interventions qu'on peut faire dans les toutes premières semaines de la vie in utero...
Première semaine de la vie in utero.
...peuvent avoir un effet tout à fait bénéfique, non seulement pour le fœtus, mais également pour l'enfant et l'adulte à venir. On peut totalement changer l'histoire naturelle d'une maladie.
Mais concrètement, je lisais que vous étudiez par exemple le fonctionnement du placenta et vous déchiffrez les mécanismes d'apparition des troubles de la croissance du fœtus, qui pourront à l'avenir être responsables par exemple du diabète, des maladies cardiovasculaires. Dans le placenta, aujourd'hui, on en est là.
Absolument. On sait aujourd'hui que le fonctionnement du placenta va avoir un impact non seulement sur les 9 mois de la grossesse, mais également sur toute notre vie future, et que les conséquences d'un environnement intra-utérin non optimal, comme ça peut arriver quand la croissance n'est pas satisfaisante du fait d'un dysfonctionnement placentaire, eh bien ces conséquences peuvent s'exprimer bien au-delà de la naissance, et ces enfants qui ont souffert in utero d'une mauvaise vascularisation placentaire sont ceux qui, 40, 50 ans après, vont souffrir des maladies cardiovasculaires dont on parlait il y a quelques minutes.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une médecine prénatale.
On a une médecine prénatale et une chirurgie prénatale qui se développe de manière incroyable.
Et donc là, il vous faut de l'argent concrètement.
Il nous faut de l'argent pour soutenir cette recherche qui est extrêmement prometteuse parce qu'elle a un impact colossal non seulement pour ces fœtus mais également pour la santé publique dans le futur. Mais il nous faut également de l'argent pour soutenir l'enseignement de cette médecine moderne qui est vraiment révolutionnaire et qui nécessite des techniques d'enseignement beaucoup plus coûteuses que ce qu'était la visite du mandarin il y a 30 ans.
Professeur Frenander, vous, votre spécialité entre autres, c'est le rein d'abord, mais c'est le vieillissement. Comment vieillir en bonne santé ?
Oui.
Il y a un truc que vous observez de près, c'est le rat taupe nu. C'est quoi cet animal tout rose dont vous avez la photo dans votre bureau?
C'est la seule photo de mon bureau.
Il doit être vachement beau, votre rat.
Imaginez une petite souris. C'est un rat qui a une taille de souris. C'est un tout petit animal. Une souris vit 2 à 3 ans. Ce rat taupe nu qui vit dans la corne de l'Afrique, en Éthiopie, Somalie, au Kenya, vit 30 ans, c'est-à-dire 10 fois plus longtemps. Pas de maladie cardiovasculaire, pas de cancer, pas de maladie neurodégénérative. Il vit en bonne santé une durée de vie qui serait pour nous, si on extrapole, 600 ans, 700 ans. Alors ça peut paraître long.
Oui, ça peut paraître long. Ouais.
Surtout quand on n'est pas en bonne santé. Or, lui vit jusqu'à la fin de sa vie en bonne santé. Et si on arrivait à trouver les raisons de cette longévité, qui est tout à fait exceptionnelle, c'est le champion du monde de la longévité, parmi le règne animal et en tout cas les mammifères. Si on arrivait à trouver les clés, lui les a trouvées, on pourrait transférer au moins une partie de ses recettes sous forme de médicaments. Et pour faire cette recherche qu'on appelle translationnelle, c'est-à-dire on part du rat et puis l'objectif, c'est pas le rat. L'objectif, c'est l'homme, évidemment. Le jour où on a des clés comme ça, on apporte des solutions qu'aujourd'hui, on n'entrevoit même pas.
Mais on en est loin ?
Eh bien, écoutez, on a trouvé chez ce rat taupe nu qu'il fabriquait, par exemple, une très, très grosse molécule, peu importe les noms, qui le protège, qui protège sa peau quand il est dans ses galeries souterraines, mais qui a des effets anticancéreux absolument formidables. Voilà une piste qui, évidemment, va être creusée. On a séquencé le génome du rat taupe nu. Donc, demain, on va être capable de l'annoter, de le transformer et de voir à quel point ces molécules-là sont importantes ou pas. Et demain, si on fabrique un médicament à partir de ça, tout le monde sera content.
Mais votre rêve, c'est quoi ? C'est l'immortalité ?
Pas du tout. C'est de vivre ce qu'on a à vivre en bonne santé. Si vous savez, vivre 120 ans en ayant la moitié de sa vie un handicap, une maladie grave, c'est horrible. Or, pourquoi est-ce que je dis les choses comme ça ? Parce qu'on est entré dans l'ère des maladies chroniques. Autrement dit, des maladies infectieuses, comme le sida, des cancers, sont devenues des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies avec lesquelles il faut vivre. C'est encore beaucoup mieux quand on est capable de les éradiquer. Donc, vivre ce qu'on a à vivre, mais le vivre en bonne santé.
L'un et l'autre en vous êtes, à travers la Fondation Paris Descartes. On peut faire comment pour ceux qui ne sont pas là ce soir au gala ?
Comment ? Il faut donner sur le site de la Fondation Paris Descartes.
La Fondation Paris Descartes, c'est une fondation évidemment sans but lucratif, comme toutes les fondations, qui est adossée à notre université. C'est là qu'il y a un site, le site de la Fondation Paris Descartes. On y va, on fait un don, 100% de l'argent servira à la recherche et à mieux former les médecins de demain.
Merci à l'un et à l'autre, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
RTL Soir, 18h46.
Dans un instant, les essentiels de l'info d'RTL Soir, avant la météo, avant RTL Monde, le portrait du nouveau secrétaire d'État au trésor de Trump, un ancien de Goldman Sachs.
RTL Soir.